Campus Lille est partenaire de la Fête de la Science cette année et donc nous suivons de près les événements qui s'y tiennent dans le cadre d'animation, de présentation au public, de réflexion. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une conférence qui a eu lieu, mais aussi plutôt du thème de cette conférence, puisque nous allons traiter avec des personnes qui sont ici présentes, qui vont nous livrer leur regard sur le thème « Extinction, effondrement, la biodiversité et nous ». Voilà, donc l'idée étant au départ une conférence débat qui a eu lieu lundi à la MRES, à Lille, FIV. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va revenir sur cette conférence débat avec notamment Régis Thillot, que je salue. Bonjour Régis Thillot.
Bonjour.
Avec Jacques Descamps. Bonjour Jacques Descamps.
Bonjour.
Et puis avec également donc Daniel Dubois. Bonjour Daniel Dubois.
Bonjour René, bonjour à tous et à toutes.
Voilà, donc certaines personnes me sont plus familières que d'autres, puisqu'on a d'éminentes personnalités qui ont l'habitude de venir dans ce studio pour présenter des sujets passionnants. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir d'autres personnes qui sont venues former ce groupe Choc pour nous parler de ce thème, extinction, effondrement, la biodiversité et nous, et de proposer un point de vue scientifique sur la chose. Parce que quand on entend la presse, évidemment, ou quand on voit des films, il y a beaucoup de fiction dans les films. Ça s'appelle la science-fiction. C'est un genre à part dans les films comme dans les livres. Donc ça a un intérêt. Mais après, est-ce qu'il n'arrive pas un moment où on mélange tout? La question est posée, Régis Thillot.
Tout à fait. Bon, à la Libre Pensée, on s'est intéressé à ce thème de la collapsologie. Parce qu'effectivement, on a un petit peu à la rencontre entre deux dimensions. Une première qui serait tout à fait dans le domaine des croyances, de la superstition, et puis un autre domaine qui est celui de la science. Alors, dans le domaine des superstitions et des croyances, bien sûr, on trouve que ce thème de l'effondrement, on le retrouve dans différents mythes liés aux religions, avec le déluge, avec différentes catastrophes qui marqueraient la fin, sinon de la planète, du moins de l'humanité, dans sa forme actuelle. C'est une approche que nous, à la Libre Pensée, on ne retient pas. Ce qu'on retient surtout, c'est l'approche scientifique. Et l'approche scientifique nous montre quand même qu'il y a de graves menaces. De graves menaces dans le domaine de la biodiversité. Mais la biodiversité, ce n'est qu'un aspect des choses, dans la mesure où on a, bien sûr, dans tout le domaine de ce qui concerne l'environnement, les menaces sur l'environnement, on peut parler aussi, bien entendu, de la pollution, on peut parler de l'épuisement des ressources naturelles, et donc c'est un domaine qui est suffisamment large. Mais il y a aussi d'autres domaines, comme par exemple le problème de la destruction de la nature humaine de l'homme, et ça c'est tout le problème qui est lié à la bioéthique. On est en train de changer l'homme. Jusqu'où on peut aller dans ce domaine? Alors on peut aller jusqu'au transhumanisme, l'homme qui serait en fait dépassé. Et puis il y a également les menaces du numérique, les menaces numériques qui font qu'on est en train de passer progressivement dans le domaine de la tyrannie du numérique. Et puis quatrième domaine aussi, c'est le domaine social, où on voit que bien entendu, les arbres ne montant pas jusqu'au ciel, les inégalités sociales vont se traduire tôt ou tard par des révoltes, elles ont déjà commencé. Mais quand on fait ce mélange de ces quatre domaines où on peut parler d'effondrement, on s'aperçoit qu'effectivement on se retrouve dans une conjonction qui a déjà existé dans des civilisations qui sont disparues aujourd'hui. Il y a eu des changements, des civilisations qui ont disparu à cause des modifications climatiques, à cause de modifications économiques, à cause de grandes épidémies. Donc on est tout à fait dans ce domaine-là.
Mmh. Alors, vous avez sans doute vu une série qui s'appelle L'Effondrement,
oui,
et qui était assez remarquable pour ma part. Je l'ai vue avant Nouvel An, et je dois dire que j'ai passé un drôle de réveillon quand même. et dès l'année d'après, très vite donc... est venu se placer, on va dire, cette histoire de Covid, oui, que j'avais suivi d'assez près, puisque j'ai des relations assez privilégiées avec la Chine, et j'avais vu arriver ça, quoi, oui, assez vite. Et donc, on est entré dans une ère de, sans doute, de rupture d'un fonctionnement normal, avec peut-être des catastrophes à venir, on ne sait pas encore l'impact de tout ça, mais encore on pourrait dire que si cet exemple-là servait de leçon et qu'on en tirait pour l'avenir des solutions à d'autres problèmes qui ne manqueront pas de suivre, peut-être ce serait un bien d'y réfléchir tout de suite.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, à toute chose, malheur est bon. On peut se dire qu'effectivement, et aussi en parallèle avec ce qui se passe dans les religions, la fin d'une certaine forme d'humanité peut se traduire par un renouveau et puis l'abandon peut-être de choses qui ont amené à notre perte. Je voudrais quand même dire une chose à propos de tout cela, c'est que finalement, ça traduit une forme de très grande vulnérabilité de l'homme, hein, qui est devenu de plus en plus vulnérable, très dépendant des techniques numériques, par exemple. Hein. Il y a un exemple de situation catastrophique, c'est une éruption solaire qui pourrait, en quelque sorte, détruire tous les circuits électroniques qui existent dans le monde. Et ça se traduirait automatiquement par une catastrophe, parce que tous les systèmes vitaux disparaîtraient. On pense par exemple au système de contrôle des centrales nucléaires, on pense notamment aux hôpitaux, qui sont fortement dépendants de systèmes numériques, on pense à tous les systèmes de distribution, d'eau, etc. Mmh. Et donc on sent cette vulnérabilité. Et alors moi j'aime bien prendre une image, si vous voulez, c'est l'image du carrosse. Hein, on est dans un carrosse, très confortablement assis, on a un bon petit plateau repas, avec une coupe de champagne à la main, on voit le paysage à travers les fenêtres, donc on est très content. Alors il y a quelques petits soubresauts, mais bon, après tout on a choisi les conducteurs, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ce que l'on ne sait pas, c'est que l'attelage est devenu fou. Il est conduit par quatre chevaux qu'on pourrait qualifier des quatre chevaux de l'Apocalypse, hein, les quatre thèmes dont j'ai parlé. Hein. Et tous ces quatre chevaux nous entraînent vers un précipice et d'une façon inéluctable. Alors le problème, c'est de savoir quand est cette échéance. Est-ce qu'elle est maintenant ou est-ce qu'elle est pour une génération ou pour deux générations? En attendant, c'est un petit peu la même histoire que le gars qui tombe du gratte-ciel en se disant « Jusqu'ici, tout va bien ».
Des réflexions autour de la table. Alors, Jacques Descamps.
Oui, je vais préciser tout de suite la présentation. Je ne suis pas du tout un spécialiste scientifique de la biodiversité. Je suis uniquement le secrétaire du Comité laïque du Nord, donc dont Daniel Dubois est le président. Et donc, on a organisé depuis des années, une dizaine d'années, une autre participation à la Fête de la Science. Et cette année, le thème de la Fête de la Science, c'était la biodiversité. Donc, on a essayé de montrer comme quoi la biodiversité permettait de relier avec tout ce catastrophisme ambiant dont a parlé Régis Thiot là, dans la conférence de lundi soir. C'est-à-dire, la biodiversité, c'est une catastrophe lente. Bon, pour aller vite. Hein.
La perte de la biodiversité.
Oui, la perte de la biodiversité, c'est une catastrophe lente, en effet. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de mal à sensibiliser les gens par rapport, par exemple, aux inondations ou aux variations climatiques qui peuvent avoir des effets très brutaux. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu inviter, donc en plus de Régis Thiot, on a invité Hélène Soublet, qui est la directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité.
Donc peut-être, à ce moment précis de cette émission, un petit retour sur cette conférence de débat qui a eu lieu lundi.
Oui. Alors, il y avait donc Régis Thiot qui a résumé un peu son intervention précédemment, là, donc sur la vue historique et mythique de tous les catastrophismes qu'on a pu vivre, mais en montrant bien que ce n'était pas une vue scientifique. Or là, avec... on a fait la comparaison avec ce qu'a présenté Hélène Soublet, qui est l'état actuel des connaissances dans un domaine précis, non pas toutes les catastrophes, mais la perte de la biodiversité, c'est-à-dire la disparition d'espèces. Et elle a bien montré aussi ce que c'était que la perte de la biodiversité. Ça peut être à la fois disparition d'espèces. Quelques-unes, on les a repérées, hein, des animaux disparus récemment, mais surtout la perte de la population de ces espèces. Hein, après... Donc une diminution très rapide, et donc elle a bien montré en quoi la biodiversité était vitale pour nous, notamment parce qu'elle apporte des services qu'on pourrait appeler économiques. Hein, donc on pense à la nourriture, bien évidemment, mais à toute une série d'équilibres climatiques, l'équilibre du cycle de l'eau, du carbone, etc. Donc elle a travaillé ces questions, montrant l'impact de la biodiversité et le risque, plus ou moins à long terme, d'une perte de la biodiversité.
Ben, je pense que certains chercheurs l'affirment déjà. Après, est-ce que dire qu'on rajoute des virus, c'est un gain? À voir. C'est quand virus, même de la biodiversité.
Les virus font partie de la biodiversité.
Bah oui,
Alors, ils sont juste à la limite. Elle nous a bien expliqué que les espèces vivantes, ça comporte probablement 1 milliard d'espèces. Mmh. Et on en connaît quelques centaines de millions, même pas, hein, quelques dizaines de millions. Donc, c'est, la biodiversité est une énorme inconnue. Les virus sont juste à la limite entre le vivant et le non-vivant, puisqu'ils ont besoin d'autres animaux vivants pour se reproduire. Donc, ils ont rentré dans une cellule pour se reproduire. Mais ils sont chez nous, ils sont partout, ils sont dans tous les êtres vivants, et on vit plus ou moins bien avec eux. Le problème qu'on a bien repéré, et qu'elle a bien insisté, c'est qu'ils peuvent passer, en effet, d'une espèce qui ne le gêne pas trop, hein, par exemple, certaines espèces de chauves-souris vivent avec ces virus, à des espèces, au contraire, qui vont être complètement attaquées et perturbées et malades et donc passer de la chauve-souris au pangolin, au cochon et à l'homme.
Voilà. Daniel Dubois, oui. Une petite présentation.
Oui, alors une petite présentation. Là, je ne suis pas effectivement un scientifique spécialiste. Moi, je suis professeur de mathématiques. Mais simplement, comme l'a dit Jacques, nous nous sommes réunis à un certain nombre d'associations, je dirais, d'éducation populaire. Hein, et donc, on essaye de faire passer des idées, de discuter, de réfléchir sur ces questions scientifiques en faisant venir des spécialistes. Régis Thiot, lui, a été ingénieur en prévention des risques. Hélène Soublet, vétérinaire. Donc, mais ça n'est pas, je dirais, moi, mon domaine de prédilection. Mais c'est vrai que les problèmes environnementaux sont réels, affectent la vie quotidienne des populations, voire même la population mondiale. On le voit actuellement avec le coronavirus. Mais il y a des phénomènes très visibles et d'autres qui sont beaucoup plus latents qu'on ne voit pas. C'est vrai que quand on parle de la disparition des baleines bleues ou des grands pandas, ça choque les gens. C'est vrai, ce sont, je dirais, des grosses bêtes, comme disait, mais parmi beaucoup d'autres, parmi un nombre très important d'espèces vivante. Alors, c'est vrai que dans ces problèmes, la déforestation des forêts primaires équatoriales, l'épuisement des stocks de poissons marins, les déchets plastiques, enfin, etc., les produits chimiques, tout cela sont des problèmes que l'on a abordés, qu'on a posés, mais c'est vrai que les solutions ne peuvent pas être, et c'est, je pense que c'est Hélène Soublet qui avait dit ça, si on agit sur un élément sans tenir compte des autres, eh bien, on va essayer de rétablir d'un côté, mais on risque de produire des déséquilibres sur d'autres. Donc c'est une analyse systémique qu'il faut faire, et ça n'est pas forcément évident de voir le problème dans sa globalité.
Voilà, donc il y a le problème scientifique, on va dire, il y a aussi la libre interprétation de chacun sur ce qu'il fait des données qu'il reçoit, et on peut dire que les sources sont nombreuses et pas toujours très fiables. Et puis il y a aussi l'histoire de l'éthique et puis aussi la philosophie qui peuvent intervenir dans le débat, notamment, est-ce que ce moment de risque qu'on considère comme un risque majeur peut-être, hein, est aussi un moment de réflexion sur la place du vivant, peut-être de l'homme, parmi ce vivant, ou ces vivants d'une manière générale. Et puis, est-ce que ça amène des bouleversements de réflexion sur ce qu'est un homme, ce qu'est un animal, ce qu'est un être vivant, et comment tout ça, ça doit fonctionner dans la meilleure harmonie possible, dans le meilleur des mondes?
Oui, alors ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder vraiment lundi soir, mais à la fin, il y a eu un petit débat, une petite discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça change dans nos rapports avec la nature. Bon, et intellectuellement, la distinction culture-nature, est, depuis pas mal de moments, elle est complètement abandonnée. C'est-à-dire que la majorité des scientifiques reconnaissent que l'homme est un animal parmi les autres, dans un univers avec d'autres espèces, et que tout se tient, finalement, ce qui se passe dans une espèce finit par retentir sur les autres. Alors, c'est encore plus vrai avec la mondialisation, où les circulations des hommes et des animaux est beaucoup plus importante. Donc ce phénomène devient mondial et ça remet en cause finalement notre présence sur Terre. Qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, etc. Donc ça pose des problèmes éthiques, de perspective, vers quel monde on se dirige et vers quel monde surtout on veut. Alors certains se réfugient dans des refuges comme les abris anti-atomiques ou des petites zones protégées. D'autres considèrent qu'il n'y a qu'à attendre la fin du monde. D'autres disent qu'on peut agir individuellement. Vous savez, tous les petits gestes, les éco-gestes qu'on fait, éteindre la lumière et trier ses déchets, etc. Le débat a montré que c'est bien sur le plan de la sensibilisation, mais qu'il y avait un passage par des choix politiques indispensables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'une série de petits éco-gestes chacun triant ses déchets, etc., utilisant moins de plastique, etc., ça suffira à éviter la disparition de dizaines d'espèces dans les dizaines d'années ou de siècles qui arrivent. Donc là, on a pas eu le temps d'y aborder, mais tout le monde a compris qu'il y avait des enjeux de choix de société, donc des enjeux de choix politiques.
Alors, selon les pays et peut-être selon les cultures aussi, est-ce que l'approche du problème est très différente ? Est-ce que la mondialisation qu'on décrit habituellement, elle existe aussi dans le domaine du partage d'idées communes ou pas ?
Scientifiquement, oui. Il y a le GIEC pour le climat, il y a un consensus à 90% des spécialistes pour le climat. De même, il y a l'IPBS, qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. C'est donc un réseau mondial avec une tutelle plus ou moins prégnante de l'ONU, mais avec une liberté scientifique sur l'évolution des espèces. Et l'IPBS a fait plusieurs rapports montrant la chute rapide du nombre d'espèces, et en comparant avec les 5 disparitions qu'on connaît, puisque les paléontologues et les géologues ont bien repéré qu'il y a eu 5 disparitions d'espèces, la disparition du Crétacé, de la fin du Crétacé, ça a duré 60 millions d'années. C'est-à-dire que les dinosaures ont mis du temps à mourir. Alors que ici, le nombre d'espèces et les populations de ces espèces, ça va prendre un siècle ou deux maximum. Donc ça a commencé il y a un siècle et ça risque de ne pas durer encore des dizaines de siècles. Voilà, donc ça sera beaucoup plus rapide.
Une disparition qui semble peut-être inéluctable, pas programmée, on ne peut pas dire ça quand même.
Alors, justement, moi, quand je faisais mes études de troisième cycle, j'ai travaillé en virologie. Et j'avais un directeur d'institut qui disait souvent on a les pathogènes que l'on mérite. Alors, il ne voyait pas derrière cela un châtiment divin. Il voyait simplement le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes de plus en plus vulnérables et nos modes de vie font que nous devenons vulnérables à certaines choses. Par exemple, si on prend la variole, la variole était concomitante avec l'élevage, c'est pas pour rien. Donc, on a vu des pratiques alimentaires, des pratiques domestiques, de domestication, qui se sont traduites par l'apparition, le passage d'un virus de la vache à l'homme. De la même manière, on pourrait parler de la peste aussi, puisque la peste, ça correspond aussi à une certaine forme de mondialisation, avec des grandes routes commerciales et en même temps des échanges avec des pays ou lesquels on pouvait être immunisé contre certains virus ou certaines bactéries. Et puis, cette immunité, elle n'existait pas pour les pays de destination de ce commerce.
On a bien vu aussi quand les Européens sont allés, ce qu'on appelle l'Amérique, il y a eu quand même des soucis là-bas, des populations décimées.
Et dans les deux sens, d'ailleurs, puisque les conquistadors ont ramené la syphilis, donc bien sûr, ça va dans les deux sens. Et c'est vrai que, maintenant, on en est bien conscient, c'est-à-dire que quand on trouve, on en a de moins en moins, mais si jamais on trouve des tribus primitives au fin fond de l'Amazonie, eh bien, on a des procédures pour éviter d'avoir un contact direct dans un premier temps.
Voilà. Est-ce que la rapidité, on va dire, ce début de siècle, vous la pensez plus importante que dans le siècle précédent par rapport à ces problématiques d'environnement et de biodiversité ? Est-ce que vous pensez que la population réagit davantage et est plus en attente aussi d'informations, de connaissances et de vérités scientifiques ?
Alors, c'est un peu compliqué parce que, bien sûr, on n'était pas présent au moment de la très haute antiquité. On sait quand même qu'il y a eu des événements qui se sont produits. Par exemple, la disparition des civilisations du Levant sont dues aussi à ce qu'on pourrait appeler ces disruptions, comme on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire des changements technologiques qui ont été mal absorbés par les populations. Et là aussi, c'est encore un problème de vulnérabilité. Alors, c'est assez compliqué, mais il faut voir aussi... je parle peut-être un petit peu pour ma chapelle, entre guillemets, mais il faut voir aussi l'effet un petit peu négatif des religions, dans la mesure où, pour une religion, la disparition de l'homme, c'est pas grave. Ça a été voulu par un dieu ou par des dieux, et puis ce que Dieu a fait, il peut toujours le refaire. Donc, la plupart des croyances admettent qu'on peut avoir ce cycle de destruction, réapparition, qu'on trouve d'ailleurs dans la nature. On a parlé des extinctions d'espèces, des grandes extinctions dans l'histoire de la Terre. Il faut voir aussi que juste après ces grandes disparitions, il y a eu une explosion du vivant qui s'est recréée complètement avec une formidable explosion d'espèces très différentes. Donc ça, c'est le point de vue de la nature. Comme on dit souvent, la nature peut disparaître, mais la Terre elle reste toujours là. Par contre, là où il faut insister, je crois que c'est très important, c'est sur le fait qu'on entend beaucoup des négationnistes du climat, ceux qui refusent l'idée d'un réchauffement, qui nous disent « mais la Terre a toujours connu ses cycles, etc. » Alors il faut bien voir une chose, c'est qu'effectivement il y a eu des cycles de glaciation, de réchauffement, etc., mais qui se sont passés sur des intervalles de temps de 10 000 à 100 000 ans. Et en 100 000 ans, la nature a de quoi réagir à la faire des nouvelles mutations, les espèces peuvent évoluer, elles ont le temps pour cela. Aujourd'hui, ça se passe sur 100, 200 ans. Mmh. Et là, c'est une catastrophe.
Alors, petite question, il existe des climato-sceptiques. Sont-ils honnêtes avec eux-mêmes ou sont-ils financés par des gens ou des structures, on va dire des grosses sociétés qui ont un intérêt à ce qu'ils sèment le trouble dans les personnes qui entendent ces discours-là?
Oui, alors, pas forcément pour répondre directement à ta question, mais c'est vrai que la voie, pour moi, est étroite entre le catastrophisme dont on parlait et, de l'autre côté, le négationnisme, comme disait Régis, les climato-sceptiques. Et c'est très dur de se situer entre les deux et de pouvoir réfléchir au problème, trouver éventuellement des solutions. Comme je disais tout à l'heure, quand on parle de la disparition de la baleine bleue, tout le monde est choqué et veut faire quelque chose. Bon, on parlait tout à l'heure du GIEC, le GIEC qui, effectivement, à un moment, lui, dénoncer une consommation de viande excessive. Alors peut-être pour nous, mais certains voudraient bien avoir de la viande au moins une fois par semaine. Pareil, on parlait de l'IPBES, Jacques l'a dit, qui nous annonce qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Effectivement, de nombreuses espèces sont en danger. Ça n'est pas un problème simple, mais il ne faut pas non plus lancer, je dirais, des chiffres catastrophistes, comme de l'autre côté, on a les négationnistes. Il ne faut pas essayer de... On veut faire affoler les populations, je dirais, les convaincre de la nécessité d'une sobriété heureuse, comme le dit Pierre Rabhi. Tout le monde connaît, je suppose, Pierre Rabhi. Il faut arriver à trouver son chemin là-dedans, et pour moi, ça n'est pas évident. Et quand tu parlais effectivement derrière de lobby, peut-être chez les climato-sceptiques, mais là aussi, moi, par rapport à l'intervention Hélène Soublet, qui est docteur vétérinaire, qui est directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, c'est un organisme qui a été créé avec des structures publiques. Il y a l'IFREMER dedans, il y a le CNRS, mais il y a aussi LVMH. Le LVMH, c'est Bernard Arnault. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi conflit d'intérêts par moment?
Les lobbies veulent se verdir, c'est évident. Toutes les grosses sociétés veulent se donner une image écolo. Parce que ça paye dans l'opinion publique. Ils sentent que l'opinion publique est en train de changer par rapport à tout ça. Donc des grosses firmes, des multinationales financent une fondation qui est destinée à la recherche et animée par des labos publics. Ce sont des universités. Il y a Montpellier, il y a l'IFREMER, il y a il y a l'INRA, etc. Il y a 9 labos ou universités publiques. Donc, c'est vraiment une question d'image pour LVMH. Hein. Ça nous surprend pas en connaissant, la souplesse des multinationales pour coller aux réalités de l'opinion publique.
Là, on parle beaucoup de Bill Gates qui investit beaucoup dans la recherche avec des fondations, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de ce côté-là ou est-ce que c'est un apport? Est-ce que les sociétés et les pays, notamment, sont capables de s'entendre pour produire de la recherche désintéressée de ces contraintes économiques?
Alors, personnellement, moi, j'ai eu l'occasion de travailler dans une multinationale. Et c'est vrai que ce qui fait beaucoup, c'est la nécessité de présenter des comptes. On a un rapport environnemental à présenter. Et donc, bien sûr, on montre par des actions comme celle dont vient de parler Daniel, on montre que l'on a un côté protecteur de la nature, etc. Il faut bien voir que ça, c'est surtout... C'est moins par rapport au public que par rapport éventuellement des investisseurs qui craignent. Quand il y a une catastrophe environnementale, l'image de la société est atteinte. Et c'est beaucoup plus cela qu'on l'en craint. Et donc, on veut rassurer des actionnaires. On veut rassurer éventuellement des fonds de pension, etc., qui eux-mêmes affichent une sensibilité, enfin, un intérêt pour la bioéthique.
Je pense qu'aussi, un phénomène relativement récent, c'est la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui peut aussi engager du personnel à se fédérer autour d'un projet de soutien à une cause ou à une autre.
Mais la RSE, c'est strictement en français. Hein. Il n'y a rien d'équivalent au plan européen ou au plan mondial, américain, etc. Donc, c'est probable pour des entreprises françaises, mais pour des multinationales, la RSE... Bon, par contre, je suis d'accord avec ce que disait Régis sur le fait que les retours par rapport aux actionnaires, hein, notamment les gros actionnaires, ça, c'est important. Donc, verdir l'image, ça paye à ce moment. Hein. Alors, savoir si c'est efficace, c'est de l'argent qui arrive. On pourrait regretter que ça soit de l'argent privé, mais c'est de l'argent qui arrive dans des recherches. On pourrait penser que la coordination publique, et c'est là où tu posais la question sur la coordination mondiale au niveau politique, là, il n'y a pratiquement rien. Hein. Il y a les rapports de l'ONU, mais c'est vrai qu'au-delà, que ce soit pour le climat ou que ce soit pour la biodiversité, là, il y a un manque évident de volonté politique de la plupart des États.
Alors justement, est-ce qu'on n'est pas à un moment où l'urgence, c'est peut-être ça, c'est de fédérer des idées, conceptualiser un petit peu les solutions pour un avenir le moins catastrophique ou catastrophiste possible?
Oui, au moins ralentir la vitesse des évolutions climatiques ou de perte de biodiversité, hein, comme disait Régis. Les dinosaures, 60 millions d'années, ils ont mis pour disparaître. Il y a 60 millions d'années, ça leur a pris, pardon, excusez-moi, ça leur a pris 10 millions d'années. Hein. Bon, pas mal d'oiseaux sont en train de disparaître, hein, pas mal d'insectes sont en train de disparaître, les deux étant liés, hein, liés à une certaine agriculture, et ça va se faire sur 50, 60, un siècle, par exemple. Hein, donc, c'est vraiment très, très rapide. Si on peut freiner ça, ça permet de réfléchir, et ça permet de voir un peu plus loin. Bon, et ça, les gouvernements, les opinions publiques dans les pays démocratiques et donc les gouvernements dans ces pays-là peuvent freiner. Hein, ce n'est pas une somme de petites décisions familiales qui pourra freiner vraiment cette perte. Hein.
Après, on voit dans l'actualité très récente que des choses qui ont l'air d'être des détails peuvent susciter des réactions fortes. Je pense notamment à la protection des abeilles et de la poursuite de certains produits qui sont utilisés pour... on va dire, favoriser le développement des betteraves plutôt que d'autres choses. Je ne veux pas semer le trouble chez les betteraviers, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut continuer à produire à outrance sans avoir de frein et de mise en perspective sur l'avenir de ces comportements?
Alors, je crois que c'était justement un des aspects qui a bien été développé par Hélène Soublé hier, dont Daniel a parlé aussi en introduction, c'est-à-dire que en tant qu'homme, on a toujours tendance à regarder les choses par petits bouts, hein, un peu à l'image de cet éléphant qui est regardé par des fakirs et chacun prend un petit bout en pensant que la trompe c'est un tuyau d'arrosage, que la queue c'est une corde, etc. Et donc quand on prend des éléments séparément, bien entendu, on ne peut pas avoir cette vision globale, ces problèmes d'équilibre. Et là, c'est là qu'intervient le problème des lobbies. Hein, on a parlé, bien sûr, les gens peuvent travailler ensemble, mais malheureusement, les décideurs sont sous l'influence des lobbies qui, eux-mêmes, représentent simplement une partie des intérêts particuliers. Et là, il faut bien voir, par exemple, mais c'est bien ancré dans l'imagerie populaire. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on me parlait d'animaux nuisibles et d'animaux utiles. C'est un concept qui n'a plus de sens aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'animaux qui soient uniquement nuisibles et d'animaux qui soient uniquement utiles. Et c'est ce prisme qu'il ne faut pas garder à l'esprit, sinon on a une vision fausse.
Après, effectivement, c'est plutôt le mot utile qui a changé de sens au fil du temps, et que utile à l'époque ou nuisible, ça correspondait plutôt à une gêne, voire même plus, qu'il pouvait occasionner aux hommes.
Oui, mais on a parlé du problème des vautours. En Inde, où ils ont quasiment disparu, on ne comprenait pas pourquoi, et on s'est aperçu que c'est simplement un anti-inflammatoire qui était donné aux vaches, qui ont exterminé quasiment ces vautours, parce que la vache, c'est un animal sacré en Inde, et on ne peut pas y toucher. Ça, donc les carcasses pourrissaient au soleil, mais les vautours se chargeaient de la chose. Les vautours ayant disparu, les carcasses restent, ce sont les chiens qui mangent ces carcasses, qui se développent, et la rage apparaît. La barrage, la peste, et c'est également... Et donc, finalement, voulant gagner de l'argent sur ces anti-inflammatoires pour augmenter la productivité de la production de lait, puisque les vaches en Inde ne servent qu'à la production de lait, pas à la boucherie, que finalement, on se retrouve à dépenser beaucoup plus d'argent pour traiter les gens de la rage ou de la peste.
Donc, quand on dit gagner de l'argent, encore faut-il savoir qui gagne de l'argent et pour en faire quoi ?
Tout à fait.
Il y a l'aspect aussi accumulation de produits qui se remplacent de très très vite. On a abordé un peu le problème de l'obsolescence, et c'est évident que le remplacement de matériaux, d'outils de plus en plus performants, de plus en plus rapides ou de plus en plus avec des capacités plus importantes, on pense à l'électronique, au téléphone ou tout ce qui est télécom, etc. Ça a un coût sur le climat par le rejet de CO2, etc. Mais ça a un coût aussi pour la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de produits, de ressources qui risquent de disparaître très rapidement, avec un cycle très négatif, puisque tout ça se retrouve dans des décharges en Afrique ou ailleurs. Voilà. Donc, il y a tout cet aspect du modèle économique. On a dit qu'il fallait freiner l'évolution de la perte de biodiversité, mais il faut peut-être aussi réfléchir au fait que c'est toujours le nouveau à tout prix, fait à des dégâts énormes, pour des gains relativement faibles.
Voilà, alors après, selon les domaines, il est évident que certaines technologies ont permis de faire des choses, et même des économies d'échelle, et peut-être de rendre de grands services, qui pourraient être réalisés dans un délai normal antérieur.
Oui, oui.
Donc, dans ce niveau-là, qu'est-ce qui manque pour que cette réflexion engagée, on va dire, déjà, est-ce qu'il y a des états généraux de la biodiversité ? Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues, notamment dans nos universités publiques, pour se mettre au travail et produire des recherches, des sujets, des thèses ou des éléments de compréhension qui soient ensuite vulgarisés d'une certaine manière et avec une approche aussi qui est importante pour les décideurs, c'est-à-dire, je parle notamment des politiques qui ont pour projet de trouver des orientations politiques, mais qui soient au moins informés, formés à tout ça. Et je dirais même quelque part les journalistes. Est-ce que les journalistes qui commentent l'actualité ont des compétences suffisantes en sciences pour pouvoir intervenir sur ces domaines-là, s'ils n'ont pas un minimum de compréhension et de formation à ça ?
Beaucoup de questions. Je peux répondre uniquement sur un point bien précis que tu as posé sur le congrès mondial de la biodiversité, qui était les initiales anglaises, c'est IOUCOM, je ne sais pas correctement. Ça fait deux fois qu'il était reporté. Il devait se tenir au mois de janvier 2020. Il a été reporté au mois d'août 2020. Il était encore reporté. Il tiendra peut-être au mois de... Il devait se tenir à Marseille. Il se retiendra peut-être au mois de février 2021. Là, il y aura éventuellement une prise de position des scientifiques mondiaux sur la biodiversité. Mais l'autre point sur lequel je peux répondre, et les autres je ne peux pas répondre, c'est l'évaluation des politiques publiques. Là, il y a un retard énorme, pas seulement sur la biodiversité. Il y a une loi de 2016 sur la lutte contre la perte de la biodiversité, une loi française. Il n'y a pas encore eu d'évaluation de cette loi, donc on est 4 ans après. Donc quel impact ça a eu? La seule chose qu'on a pu trouver, c'est un rapport du Conseil économique et social et environnemental, qui est passé complètement inaperçu, comme la plupart des rapports du Conseil économique et social, mais qui était plutôt négatif, en disant que beaucoup de points n'avaient pas été atteints, mais personne n'en a parlé. Donc l'évaluation et le retour sur les politiques, c'est un gros retard en matière politique.
Bon, cela étant, les rapports existent, hein, il suffit d'aller les consulter. Je vois le CES en région ou ailleurs produit de la matière intéressante.
Oui.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, on parlait de recherche sur l'université. Je crois qu'il faut bien voir que tout ce qui est les avancées, c'est un petit peu le problème de l'écologisme qui peut paraître parfois totalitaire, et on en a eu quelques exemples les semaines qui ont précédé, là, avec l'histoire d'arbre de Noël, de Tour de France et autres. Mais c'est vrai que les avancées techniques et scientifiques ne sont pas responsables des désordres de notre quotidien et de ce qui arrive dans le monde. C'est l'utilisation qui en est faite par les acteurs économiques et politiques, quoi. Hein, donc c'est, et on vient là sur le problème d'anticapitalisme et donc d'écologie, où on dit, on parlait tout à l'heure de lobby derrière, etc. Je voulais citer le rapport d'Oxfam qui indique qu'en France, les 10% les plus riches sont responsables de plus de 27% des émissions cumulées de CO2. Donc, quand on parle de diminuer les émissions carbone, quand on parle... on vient tout à l'heure, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, il faut peut-être diminuer sa consommation de viande.
Alors, sur cette question de l'impact, on va dire, de la recherche qu'on utilise plus ou moins bien, est-ce qu'il y a, comme dans les médicaments, par exemple, parfois ils sont, je ne vais pas dire vertueux, mais ils peuvent quand même servir, parfois il y a des notices qui expliquent les dangers de ça, les effets secondaires, etc. Est-ce que quand un chercheur cherche, il peut imaginer tout ce qu'il pourrait prescrire, préconiser? Alors, je vais donner la parole, peut-être pour conclure d'ailleurs, à Régis Tuyot.
Oui, alors c'est un sujet très intéressant, puisqu'aujourd'hui on vient d'apprendre que le prix Nobel de chimie a été accordé à deux charmantes chercheuses, une américaine et une française, qui ont travaillé sur le fameux CRISPR-Cas9, qui est ces espèces de ciseaux moléculaires qui en fait modifient nos gènes. Et donc là aussi, on a parlé de transhumanisme, on voit bien les deux aspects des choses, c'est-à-dire qu'on voit l'aspect positif, qui est peut-être qu'on pourra guérir de certaines maladies, et on voit l'aspect négatif, qui est que cette technique, qui est relativement simple, pourrait être tout à fait utilisée par des terroristes, par exemple, pour faire des agents pathogènes. Et donc c'est tout le problème de la science. Hein, la science a toujours... C'est pas le problème. La chercheuse Mettner qui a travaillé sur la fission nucléaire, elle n'a pas imaginé à un moment donné qu'on pourrait faire une bombe atomique tout de suite.
Alors justement, la science sans conscience, c'est inenvisageable peut-être. Hein. Est-ce que la philosophie devrait rejoindre aussi les groupes de réflexion?
Tout à fait.
Là, on constate qu'il y a...
L'interdisciplinarité.
Voilà, qu'il y a un cloisonnement qui peut être négatif. La science est très spécialisée, si bien que chaque chercheur a l'œil sur son microscope et sur un territoire qu'il connaît bien. Et c'est très difficile de faire bosser ensemble, par exemple, des sciences humaines et des sciences dures. Hein. Par exemple, l'anthropologie a des choses à dire sur comment on vit avec des virus. Or, voilà. Ça n'a jamais été envisagé.
Donc voilà, là aussi, la diversité existe, elle est précieuse, il faut la préserver et peut-être s'en servir.
Oui.
Merci Jacques Descamps, merci Régis Tillot et Daniel Dubois pour ces remarques et ce complément d'infos par rapport à cette conférence Extinction, effondrement, la biodiversité et nous. Une actualité peut-être, Jacques Descamps, quant à votre groupe de réflexion?
Oui, pour la première fois, on a réussi à avoir une captation vidéo de la conférence. On a eu d'autres conférences tous les ans, on avait des conférences débats avec des scientifiques intéressants, mais là on a réussi à travailler avec le lycée Jean Rostand à Roubaix, qui a envoyé deux étudiants pour faire la captation vidéo et sono. Donc avec les deux montages de Régis Thiot et d'Hélène Soublé qui vont pouvoir intégrer, on espère pouvoir faire un petit film, une petite séquence qui puisse passer dans les lycées. Du reste, beaucoup sont intéressés par ça.
Un lien internet pour aller rechercher la source?
Oui, alors c'est comitélaïque59.org.
Voilà. Et tout collé. Oui, donc simplement pour dire effectivement que Hélène Soublé, qui venait donc de Paris, est intervenue avant la conférence, puisque Jacques parle de la capture vidéo. Elle est intervenue dans deux lycées, au lycée Jean Perrin à Lambersart et au lycée Fédère Balil, devant des lycéens de terminale, donc avec une conférence débat également. Hein. On a essayé de vulgariser, de sensibiliser. Alors, une classe à Jean Perrin, à Fédère, c'était en amphi, je crois, il y a eu trois classes. Oui.
Bon, peut-être le débat commençant à être soulevé de la majorité à 16 ans pour voter, ben, au moins des citoyens en état de pouvoir le faire peut-être mieux que d'habitude, non ? C'est leur vie, leur planète aussi.
Oui, il y a une sensibilité des jeunes là-dessus. Hein, c'est...
Voilà, bon. Donc c'est le moment d'y aller. Oui. Merci à vous trois et puis bonne continuation dans vos œuvres respectives.